très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International avec RFI, le journal Le Monde. Comment protéger notre intimité, notre vie privée à l'heure où Internet en sait de plus en plus sur chacun d'entre nous? C'est l'actualité de ces derniers jours. L'Europe vient de mettre en place un bouclier au nom barbare, un dispositif appelé RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, pour renforcer le droit des utilisateurs face aux géants du net. Nous allons notamment décrypter les enjeux avec notre invitée Isabelle Falque-Pierrotin. Elle préside la CNIL, le gendarme français de notre vie privée qui veille à nos droits sur Internet. Mais pour ouvrir ce magazine, je vous propose une chanson, Rien à cacher, interprétée par la Parisienne libérée, une chroniqueuse chanteuse. Écoutez-la avec un complice, Jérémy Zimmermann, qui défend les droits et les libertés des citoyens sur Internet.
Nos mails inachevés,
l'adresse de notre docteur,
notre âge est détaillé,
nos relevés de compteur,
nos préférences sexuelles,
à bien y réfléchir,
sont pas si personnelles
que l'on veut bien le dire.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.
Bonjour Isabelle Falque-Pierrotin.
Bonjour.
Je viens de le dire, vous êtes présidente de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Vous veillez entre autres à nos droits et au respect de nos données personnelles sur Internet. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à notre invitation. Alors, rien à cacher sur Internet.
J'adore cette chanson. Mais la protection des données personnelles, c'est pas simplement de protéger les secrets des uns et des autres. C'est protéger leur capacité, leur autonomie de choix, leur liberté d'aller et de venir, de ne pas être tracé partout, par exemple.
Vous y arrivez,
c'est tout
vous
ça, la protection des données personnelles. Est-ce que j'y arrive, moi, à titre
personnel?
Comme tout un chacun, j'essaye, je mets quelques barrages. J'essaye d'éviter de partager trop de, justement, d'éléments trop personnels sur Internet, en réalité.
Alors, si vous voulez bien, avant de continuer cet entretien, je vous propose de revenir sur l'actualité de ces dernières années autour de cette question des données personnelles. Scandale et révélation, un focus signé Bastien Maury et Séverine André.
Prisme, 5 lettres et 1,7 million de documents démontrant une surveillance secrète d'Internet et des télécoms par la NSA. L'Agence nationale de sécurité américaine où travaillait cet homme, Edward Snowden, employé devenu lanceur d'alerte. En juin 2013 éclate un des plus gros scandales d'espionnage de données, celle notamment de chefs d'État européens et de millions de citoyens à travers le monde.
Nous pouvons tous être observés sans même avoir fait quelque chose de mal. Vos décisions, vos relations avec vos amis, tout est scruté à la loupe.
Mais c'est avec le scandale Facebook que grandit l'inquiétude au quotidien des internautes pour les données qu'ils déclarent de leur plein gré. Le géant des réseaux sociaux aurait partagé des informations sur 87 millions d'utilisateurs avec Cambridge Analytica, une société payée en 2016 par Donald Trump pour influencer des électeurs potentiels. Pour cela, Mark Zuckerberg a été entendu par le Parlement européen.
Nous n'avons pas fait assez pour empêcher que nos outils soient utilisés à des fins préjudiciables. C'était une erreur et j'en suis désolé.
1 000 milliards de dollars, ce pourrait être en 2020 les recettes du marché des données. Leur protection est un défi pour la démocratie et les sociétés toujours plus digitalisées. En France, la CNIL, gendarme d'Internet depuis 78, et dont vous, Isabelle Falque-Pierrotin, êtes la présidente, a reçu en 2017 un nombre record de plaintes de citoyens. Attendu, Bruxelles a réagi en adoptant il y a quelques jours un règlement sur la protection des données. Sont prévues des amendes allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Mais en réglementant, le risque peut être de limiter le développement de secteurs économiques innovants, comme celui de l'intelligence artificielle.
Isabelle Falque-Pierrotin, Christophe Hayat du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Alors, depuis vendredi dernier, le 25 mai, un texte fondamental, un règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui avait été voté en 2016 au Parlement européen, est appliqué dans toute l'Europe. Il vise à réellement protéger nos données, les données des citoyens de l'Union européenne, comme le nom, le prénom, la géolocalisation, adresse courriel et bien d'autres. Et aussi avec en prime le fameux droit à l'oubli, la suppression de nos données personnelles. Il est même prévu de lourdes amendes pour des entreprises du net, jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires mondial. Sophie, une première question.
Isabelle Falk-Perrotin, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'enjeu, c'est la norme mondiale, celui qui sera capable d'imposer sa norme à l'échelle de la planète. Et est-ce que les Européens sont bien partis ?
Écoutez, je crois qu'on n'en est pas encore là. On en est dans un moment historique, mais qui pour le moment est un moment européen, qui consiste à dire l'Europe a été capable, d'envoyer un message politique extrêmement fort. Nous pouvons moderniser le cadre juridique de la protection des données, faire en sorte que nous accompagnions l'innovation, la circulation, l'utilisation des données, tout en restant fidèles à nos principes fondamentaux, qui est que la protection des données personnelles, c'est un droit fondamental. Et donc, c'est déjà l'unité du marché européen, de la loi européenne commune sur cette question. Après, si on peut, en faire un standard mondial, l'histoire le dira.
C'est très ambitieux.
C'est le stade d'après. Je crois que l'Europe est capable d'avoir un marché unifié de la donnée, de faire en sorte que l'ensemble des entreprises qui prestent en Europe respectent ce cadre juridique et de faire en sorte que l'ensemble des Européens s'emparent de ce droit à l'oubli, de ce droit à la portabilité, alors là, nous serons crédibles pour dire les données et leur protection, ça veut dire quelque chose de réel en Europe chez nous.
Mais est-ce que du coup, on ne crée pas un décalage et finalement, on se donne des contraintes à nous-mêmes, à nos entreprises, même aux petites entreprises qui ont relativement peu de moyens pour gérer cette affaire, alors que finalement, les géants du numérique mondial sont finalement hors de cause.
Alors ça n'est pas le cas. Pourquoi ça n'est pas le cas ? Parce que en réalité, ce règlement remet les entreprises européennes à égalité de concurrence avec ces grands groupes mondiaux qui, pour certains, ne sont pas établis en Europe. Pourquoi ? Parce que dès que vous offrez un bien ou un service à destination d'un consommateur ou d'un individu européen, la loi européenne s'applique. Ce qui fait que, même si vous êtes une entreprise mondiale qui est établie en Inde, en Chine ou aux États-Unis, dès lors que vous ciblez, c'est ça cette idée, que vous ciblez le territoire européen, alors les lois européennes vous sont applicables. Donc, tout le monde est à égalité de concurrence. En revanche, ce que vous dites sur les petites et moyennes entreprises est réel. C'est réel parce qu'il faut être honnête, ce règlement est un texte complexe, c'est le fruit de compromis de nombreuses années entre des intérêts qui sont quand même très différents les uns des autres selon les pays. Donc ce que nous avons fait, et quand je dis nous, c'est la CNIL, nous nous sommes alliés par exemple avec la BPI pour produire une sorte de kit de survie à destination des PME, PMI, banques publiques d'investissement, pour les aider, les guider dans ce RGPD et faire en sorte que ça ne soit pas, voyez, pour ce type d'entreprises qui n'ont pas nécessairement des consultants, des avocats, etc. Je dirais que ça ne représente pas un obstacle infranchissable.
Isabelle Falk-Perrotin, je vais vous poser une question un peu naïve, mais étant donné que les données sont aujourd'hui l'une des principales ressources de certaines entreprises, notamment les géants du net, qui les monnaient contre de la publicité, etc. Pourquoi les consommateurs, ou du moins ceux qui donnent leurs données, n'ont pas un retour financier ?
Vous y êtes opposé, d'ailleurs.
Alors, c'est comme si on dit que les données, c'est le nouveau pétrole. Après tout, le pétrole, il se paye. Les données, elles sont gratuites.
S'ils avaient un retour financier, toutes les études qui ont commencé à être faites montrent que ce retour serait infinitésimal par rapport aux bénéfices économiques que ces grands géants en retireraient. En revanche, ce qu'apporte est beaucoup plus intéressant. Parce qu'en réalité, il vous donne des droits sur vos données, le droit à la portabilité, le droit à l'oubli, le droit de supprimer des données, même si ces données ne sont pas, entre guillemets, à vous, c'est-à-dire sont traités par d'autres. Et ça, c'est un droit qu'il faut justement pas abandonner. C'est un droit extrêmement puissant. C'est un droit, finalement, relatif à l'usage. Voyez ? Donc, je crois que cette idée que, finalement, la propriété des données changerait la donne, je crois qu'elle part à la fois d'un constat qui est juste et que nous partageons tous, c'est qu'il y a un déséquilibre économique aujourd'hui entre les grands acteurs et les individus. Mais la réponse est mauvaise. En réalité, la réponse du RGPD est beaucoup plus puissante puisqu'elle consiste à dire, face à ce déséquilibre initial, je vais dans le fond rééquilibrer la relation, d'une part en responsabilisant beaucoup plus les entreprises à travers un certain nombre d'obligations nouvelles, de transparence, d'accountabilité, comme il est dit dans le texte, et les personnes, à la fois à titre individuel et collectif, sont mieux outillées à travers des droits plus puissants.
Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une modification à la marge? Parce que une entreprise comme Facebook, elle n'a absolument pas changé son business model, comme on dit. Son but est toujours de vendre ses informations. C'est comme ça qu'elle se valorise. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a modifié?
Attendez, le RGPD est entré en application
vendredi dernier. Oui.
Le RGPD offre une capacité nouvelle et considérable d'action aux régulateurs européens, puisque, à la différence des années passées, où la CNIL pouvait prendre une décision sur Facebook, mais avec un niveau de sanction très faible, mais tout ceci était séparé de la CNIL espagnole, irlandaise, etc. À partir de aujourd'hui, nous pouvons co-décider à 28, c'est-à-dire que les 28 ont une capacité potentiellement de sanction de 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc si vous voulez, pour le moment, rien n'a changé, sauf que nous avons déjà reçu des plaintes sur ces grands acteurs de l'Internet. Max Schrems, que certains d'entre vous connaissent, qui est un Autrichien qui a fait tomber le Safe Harbor, qui était cet accord entre l'Europe et les États-Unis, a déposé un certain nombre de plaintes identiques dans 4 pays européens pour tester justement ce GDPR. Et nous aurons, avec ce GDPR, une capacité d'action au niveau des régulateurs européens qui sera considérable. Donc moi, je crois qu'il est un peu tôt pour dire ça ne change rien.
Mais est-ce qu'on ne demande pas, en quelque sorte, aux utilisateurs d'être leurs propres gendarmes, hein? C'est-à-dire que c'est... Parce que, pour être très très concrète, quand on reçoit les conditions d'utilisation, si on ne les coche pas de façon favorable, eh bien, on ne peut plus utiliser le service des entreprises. Donc, on demande aux utilisateurs, en quelque sorte, d'être eux-mêmes le gendarme de leurs propres données, alors que, ce sont les entreprises, ce sont les fournisseurs qui devraient sur lesquels on devrait exercer.
Mais la pratique que vous décrivez, encore faut-il qu'elle soit légale. Et justement, l'objet de des plaintes déposées par Max Schrems est de faire tester et apprécier par les autorités de régulation, justement, si ce consentement forcé, take it or leave it, à prendre ou à laisser.
Prendre ou à laisser.
Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est conforme au RGPD?
Par exemple,
dans les semaines à venir, France, Allemagne, Autriche, Belgique, expertiser justement auprès de ces acteurs Facebook, Google, WhatsApp et Instagram, si effectivement c'est légal.
Finalement, cette nouvelle réglementation, elle deviendra intéressante s'il y a des actions collectives.
Alors moi je crois que ce GDPR, effectivement, qui est extrêmement satisfaisant au regard du texte, le texte lui-même est effectivement très satisfaisant. Maintenant, il faut démontrer que ça marche. Il faut démontrer que ça marche, c'est-à-dire d'une part que ça nous met en capacité, nous régulateurs, de prendre des décisions à 28, le cas échéant, qui soient des décisions exigeantes vis-à-vis de ces grands acteurs de l'Internet, mais pas simplement l'aspect négatif. Il faut aussi que ce texte montre que nous sommes capables de produire de la norme positive. Vous voyez, en matière de protection des données, je vous donne un exemple. On a beaucoup travaillé en France, nous à la CNIL, sur la voiture connectée. Et nous nous sommes dit, la voiture connectée, c'est un objet d'intérêt absolu pour les utilisateurs, pour les fabricants, etc. Et nous pensons que la protection des données peut être un argument de différenciation concurrentielle. Parce que, évidemment,
entre les constructeurs.
Mmh. Et donc, nous avons établi au niveau français un pack de conformité que tous les constructeurs, les assureurs, les start-up qui s'occupent de ce sujet ont signé. La question est maintenant de voir est-ce que ce pack peut devenir un pack européen. Et à ce moment-là, le RGPD produit non seulement du répressif, mais aussi, je dirais, de la norme positive pour donner des outils aux entreprises européennes.
Et quelle est la dernière instance juridique, judiciaire plutôt, en cas de recours? C'est la Cour européenne de justice? C'est la Cour de justice de l'UE? Ou est-ce que ce sont les cours nationales?
Vous disiez alors, ça
tout
va
à
dépendre.
En France, en Allemagne, etc.
Mais... Ça va dépendre. Disons que ce qui est nouveau et qui est créé, c'est une nouvelle institution européenne qui est l'EDPB, le board, en fait, des 28 CNIL européennes. Et les décisions de ce board, puisqu'il a la capacité de prendre des décisions contraignantes qui vont s'imposer donc à l'autorité irlandaise, à l'autorité luxembourgeoise, à l'autorité française. Ces décisions, le cas échéant, peuvent être contestées devant le juge européen.
Mais pour être très concret, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs et aux auditeurs ? Est-ce que l'une des conséquences du RGPD, c'est par exemple que l'on aura moins de... Si on a coché certaines conditions d'utilisation des entreprises auxquelles on a recours, est-ce que ça veut dire qu'on aura moins de publicité sur nos écrans ?
Je crois que ce qu'il faut dire au consommateur, c'est que on lui donne les clés du bateau. C'est-à-dire, on lui donne la possibilité de faire des choix sur les données qu'il veut partager, les données qu'il veut mettre à disposition d'une entreprise pour avoir tel type de service et pas tel autre. Et la situation actuelle dans laquelle il y a une forme de confusion assez commode pour les entreprises sur cette collecte des données et leur utilisation, ça, cette situation, normalement, devrait trouver un terme. C'est plus de transparence et plus de maîtrise au bénéfice de l'individu.
Alors, au-delà du RGPD, si vous voulez, on va parler un peu de la CNIL. Hein. Vous êtes né il y a 40 ans, la CNIL, en 1978, en réaction hein, à l'époque à une loi qui, enfin un fichier d'ailleurs, qui permettait, qui avait soulevé beaucoup d'inquiétudes parce que les Français craignaient, ça s'appelait Safari.
Safari. Hein.
Voilà.
Un projet.
D'être fiché. Aujourd'hui, comme vous le dites souvent, la CNIL, elle est passée d'un statut de réglementeur de fichiers publics à un régulateur de données. Vous êtes donc garant de ce fameux règlement. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment vous allez faire pour faire vous respecter ce règlement ? Vous êtes l'un des plus petits organismes de régulation d'Europe. Vous êtes 200 personnes. Ils sont 500 en Allemagne, je crois, etc. Vous avez dit que vous étiez arrivé presque à un point de rupture. Est-ce que vous êtes entendu ?
Alors, je voudrais revenir sur le terme régulateur, parce que vous avez ouvert votre émission tout à l'heure en disant « la CNIL est un gendarme ». Et un gendarme et un régulateur, c'est pas la même chose. Effectivement, on tient à ce terme de régulateur, parce que concrètement, ça veut dire qu'on est campé sur deux pivots qui sont d'un côté effectivement le pivot répressif, je dirais pour dire il y a un texte, il y a un cadre, il doit être respecté, mais de l'autre le pivot de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que les données sont au cœur de tout. Des stratégies individuelles, des stratégies d'innovation, des modèles économiques, vous le savez comme moi. Et donc le régulateur, il a pour objectif de trouver des solutions. C'est-à-dire de dire, vous voulez utiliser ces données, eh bien, je vais vous apporter des solutions pour les utiliser conformément à la loi.
Alors, comment vous avez apporté
des solutions ? Et ça, je crois que c'est très important.
En étant 200, alors que vos homologues en Europe, dans les pays occidentaux développés comme le nôtre, sont bien plus nombreux. Vous avez dit que vous étiez à un point de
rupture ? Bien sûr, on a dit qu'on était en moyenne à peu près la moitié des structures homologues. Alors, d'abord, je n'ai pas définitivement perdu espoir que nos moyens ne soient pas ajustés. Et la négociation budgétaire est en cours en ce moment. Et
un petit budget, 17 millions d'euros, je crois.
On a 17 millions d'euros, 200 personnes. Effectivement, c'est un peu court pour faire face au RGPD, d'autant que depuis quelques années, on a régulièrement des missions supplémentaires. Cinq missions supplémentaires dans les dernières années. Et pour vous en citer une, c'est par exemple le contrôle de la vidéoprotection.
Oui, alors, donc c'est pas des mal aimé, c'est un organisme.
C'est que quand même la réglementation, elle a été adoptée il y a deux ans, en 2016. Maintenant, elle est mise en œuvre. Il y a eu quand même deux années entières qui se sont écoulées. Dans ces deux années-là, vous n'avez pas eu d'augmentation substantielle de vos budgets, pas d'augmentation substantielle de vos effectifs.
Alors, nous avons une petite augmentation. Mais je dirais pas à la hauteur exactement de ce que nous souhaitions.
Comment vous l'expliquez ?
Comment on l'explique ? Je crois que ces questions de protection des données sont des questions qui sont difficiles à communiquer de façon concrète. On le voit bien. Il faut donner des exemples. Ce sont des sujets qui apparaissent encore comme des sujets techniques réservés à des spécialistes et pas comme des sujets au cœur, non seulement de la vie numérique, mais de la vie tout court.
Même aux yeux de nos gouvernants ?
Écoutez, nos gouvernants pilotent un certain nombre de choses, mais effectivement, je crois que là, on est vraiment dans un changement d'univers. On a eu les révélations Snowden en 2011, qui ont donné le coup d'accélérateur nécessaire au RGPD à l'époque. On a aujourd'hui Cambridge Analytica, Facebook, qui donne un coup d'accélérateur sur la prise de conscience et sur la visibilité. Je crois qu'effectivement, il faut se doter des moyens pour être professionnel dans cet univers. Vous voyez, il suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il faut aussi être professionnel. Et je crois qu'on a besoin, effectivement, de plus de ressources en ce sens.
Isabelle Falque, Pierre Autin, je voudrais revenir sur un combat qui paraît maintenant un peu ancien de la CNIL, mais qui n'était pas tant que ça il y a à peine 5 ans. C'était la lutte contre le téléchargement. Vous aviez édicté des règles, des sanctions.
C'était pas la CNIL, hein.
Enfin, c'était pas la CNIL, mais...
Non. Et... Ça, c'était la DOPI. La CNIL, était assez peu au centre de ce débat.
D'accord. Donc, je vais pas vous demander quel bilan vous tirez, puisqu'en fait, c'est pas
votre... Mais concernant votre rôle et celui des Européens, puisque maintenant, vraiment, vous êtes en cheville avec toutes les autres CNIL européennes, et c'est ce groupement-là qui est très important. Est-ce que il va pas y avoir certains pays qui vont tâcher de prendre leur distance par rapport à ça? Je pense à l'Irlande, puisque c'est là que ce qu'on appelle les GAFAM sont domiciliés.
Les géants du net.
Voilà, notamment Facebook. Quel intérêt pour eux de lâcher du pouvoir à ce groupement européen? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des résistances?
Bien sûr, voilà. Vous avez tout à fait raison. Et ce qui va se jouer dans les mois et les années à venir, c'est effectivement la capacité de ce réseau à prendre des positions communes avec effectivement certaines autorités de régulation de ce réseau qui sont particulièrement, proches d'intérêts économiques et il est évident que ça va pas être simple. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le RGPD en fait oblige à la coopération entre autorités de protection des données. Aujourd'hui, vous voyez, si on a des intérêts conjoints sur un sujet type Google, Facebook, avec nos homologues, on a la faculté ou non de coopérer. Mais l'autorité irlandaise, l'autorité luxembourgeoise, l'autorité française restent pleinement souveraines sur le cas. À partir du RGPD, ça n'est plus la situation. Nous sommes obligés de coopérer sur les cas transfrontières. Donc, ces autorités dont vous parlez, en fait, elles devront prendre en compte, pour prendre leur décision finale, ce que les autres autorités concernées pensent. Et donc, c'est ça qui va être un petit peu, c'est le grand changement de culture du règlement, c'est-à-dire que nous devenons des autorités de réseau, y compris les autorités de ces pays très friandes, entre guillemets, des grands acteurs de l'Internet.
Et, si vous voulez, revenons sur la CNIL un petit peu. La difficulté que vous avez peut-être d'avoir des moyens et votre visibilité par rapport aux autorités publiques, est-ce que ça ne tient pas au fait que vous êtes souvent perçu comme un contre-pouvoir? Vous avez, on a bien vu que les combats que vous menez restent assez rudes, notamment avec l'État. Il y a eu cette loi antiterroriste à l'automne dernier. Vous n'avez pas été consulté sur cette loi. Vous en êtes auto-saisi. Vous avez fait des recommandations. Est-ce que, et on parlait des moyens tout à l'heure, est-ce que si l'on ne vous donne pas beaucoup plus de moyens, est-ce que c'est parce que quelque part vous êtes un peu un poil à gratter?
C'est vrai. Par construction, la CNIL est un contre-pouvoir, mais je crois que aussi bien pour bâtir un contrôle démocratique, donc aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, dans le fond, avoir un contre-pouvoir robuste, c'est positif. C'est positif parce que, par exemple, sur le renseignement, nous avons toujours dit que sur le renseignement, le contrôle que la CNIL pourrait avoir sur les fichiers de renseignement, dans le fond,
la loi de renseignement de 2015.
C'est la loi de 2015. Nous avions demandé, en fait, le contrôle externe de ces fichiers de renseignement.
Vous n'avez pas
qui
eu...
sont aujourd'hui, qui n'ont pas de contrôle, de contrôleur extérieur. Nous n'avons pas été entendus.
Qu'est-ce que vous entendez par la contrôle externe?
Un contrôle externe, c'est-à-dire un contrôle qui est en dehors des mains du ministère de l'Intérieur.
Indépendant.
Vous voyez, donc c'est un contrôle indépendant extérieur.
Et vous n'avez pas eu ce
Et on ne l'a pas eu. Pour des tas de raisons liées à l'écosystème du renseignement, probablement.
Mais des raisons de confidentialité, peut-être.
Mais un contrôle ne veut pas dire qu'on brise la confidentialité. Mais on rentre dans un monde, celui du renseignement. Et ce qui était dit à l'époque, c'est ça va rendre très difficile l'action du renseignement. C'est bon. Je crois que c'est pas du tout le cas. Dans cette matière-là, comme en matière économique, en réalité, le rôle du contrôleur, c'est de permettre aussi une action plus robuste. Une action plus robuste parce que justement, respectant un certain nombre de fondamentaux, alors en matière de droit, les droits des personnes, et donc une action du renseignement plus légitime. En matière d'innovation, c'est la même chose. Quand Google a, il y a quelques années, lancé ses Google Glass, vous savez, il a lancé ses lunettes qui permettaient d'avoir accès sur Internet dans le même temps, Ça a duré quelques semaines. Au bout de quelques semaines, cette innovation a été retirée du marché parce que, dans le fond, ils n'avaient absolument pas intégré la dimension protection des données. Et donc, il y a eu un tel tollé qu'ils l'ont retiré. Donc, nous, notre message, c'est de dire, ce contre-pouvoir, il n'est pas nécessairement un obstacle à ce que vous allez faire.
Oui, mais
il va
vous
permettre une action plus
juste,
ancrée
pour aller
dans l'éthique et le juridique.
Un petit peu plus loin sur cette problématique. En période de, quand le risque terroriste est très important comme en ce moment, est-ce que la protection des données personnelles au nom de respect de la démocratie, est-ce que c'est compatible avec le respect de la protection du citoyen?
Mais si on suit la logique qui est la vôtre, il faut à terme mettre des drones en face de chaque fenêtre et surveiller en permanence tous les Français.
Non, mais
je veux dire, c'est bien sûr quelque chose qui... Pour que nous puissions rester dans un état de droit, si le renseignement a besoin de nouveaux moyens d'action, ce que je considère parfaitement légitime, alors il y a besoin d'avoir de nouvelles garanties. Et c'est ça la position de la CNIL, c'est de dire, nous souhaitons accompagner ce développement du renseignement qui par ailleurs est nécessaire, par de nouvelles garanties au bénéfice du citoyen. Mais nous n'avons pas été complètement entendus, je dis complètement, parce qu'en réalité, dans les demandes que nous avons faites en 2015 sur la loi renseignement, elles ont quasiment toutes été prises, notamment la clause de révision, le fait que certaines techniques, type les boîtes noires, ne soient réservées qu'à certaines finalités, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, et pas tout type de finalité. Donc, si vous voulez, on a quand même considérablement...
Les boîtes noires, c'est là où il y a tous les renseignements.
Refermé ce filet qui avait été largement ouvert.
Mais Isabelle Fac-Perrotin, quand il y a une cyberattaque, déjà, c'est pas toujours facile à détecter, et quand on veut prendre de court les pirates informatiques, la nécessité est de remonter aux données personnelles des attaquants. Alors, avec cette loi, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? Comment est-ce qu'on fait pour prendre de vitesse ceux qui opèrent, qui font entrer ce qu'on appelle des chevaux de Troie dans les sites, qui pratiquent des opérations de phishing aussi, de récupération des données?
Je dirais que cette loi, au contraire, est une loi, et c'est rarement dit, qui est un très bon outil en termes de lutte contre la cybercriminalité. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la loi fixe de nouvelles obligations, notamment aux sous-traitants, qui sont dans la chaîne de circulation de l'information et qui, jusqu'à présent, finalement, n'avaient aucune obligation. Et en matière de sécurité, il y a maintenant des obligations spécifiques sur ces sous-traitants. Il y a des obligations en matière de notification des failles de sécurité. Donc, au contraire, je pense que le RGPD répond, au contraire, à cette nécessité d'éviter d'avoir des maillons faibles. Vous voyez, d'éviter d'avoir des maillons faibles dans cet écosystème. Alors, ça n'empêche absolument pas à la police et à la justice de remonter aux métadonnées. Enfin, ça, le RGPD n'interdit en rien de faire ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de consentement pour ça. Les autorités publiques ont une faculté d'action et une finalité, enfin, une base légale sur l'intérêt public qui n'interdit absolument pas de faire ce genre de choses.
Vous avez parlé tout à l'heure de Cambridge Analytica. J'aimerais bien qu'on revienne sur le cas de Facebook. Facebook, aujourd'hui, c'est 2,13 milliards d'utilisateurs dans le monde et 33 millions en France. Alors, Facebook a dit vouloir appliquer le RGPD. Il est obligé au niveau européen, mais même au niveau mondial. C'est ce qu'a dit Mark Zuckerberg au salon Vivatech.
Il a dit l'inverse.
Ah bon?
Parce que alors,
il a dit qu'il voulait appliquer. Moi, si j'ai bien compris, Vivatech, ce rendez-vous des entreprises tech, la start-up, que c'était quelque chose qui pouvait s'appliquer. Non, il a pas dit ça.
Alors, Mark Zuckerberg est un habile communicant, mais en tout cas, ce qu'il a dit, enfin ce qu'il a fait de précis, c'est qu'il a retiré tous les utilisateurs non européens de la possibilité d'être géré par l'Irlande, voilà, et donc d'être soumis au droit européen. Et il a rapatrié la gestion de l'ensemble de ses utilisateurs, c'est-à-dire quand même plus d'un milliard de personnes, en Californie.
Ouais.
Donc peut-être que pour ces gens-là, il va aussi
respecter... Il y a le discours, respecter, il y a la pratique.
Voilà, mais en pratique, en réalité, le RGPD ne sera applicable que aux utilisateurs européens de Facebook.
Et par ailleurs, pour le mal qui a été fait, puisque faut rappeler quand même rapidement Cambridge Analytica, c'est l'utilisation des données des utilisateurs de Facebook à des fins politiques par un cabinet d'analyse. Cette société, ça y est, elle détient ces données. On a vu Zuckerberg s'exprimer devant les députés européens. À aucun moment, il a prétendu ne même pas savoir ce qu'il était advenu de ces données. Est-ce que là, on passe l'éponge, c'est terminé, c'est du passé, il n'y a rien à récupérer, il n'y aura pas plus de sanctions que ça?
Alors, il y a deux procédures qui sont enclenchées, l'une par la CNIL irlandaise, l'autre par la CNIL anglaise. Les Anglais sur Facebook, sur Cambridge Analytica, les Irlandais sur Facebook. Les informations que nous avons, c'est que concernant Cambridge Analytica, la CNIL anglaise a mis, l'ICO britannique, a mis énormément de ressources, 45 personnes à plein temps qui s'occupent du cas, un volet pénal, visiblement. Aujourd'hui, la société Cambridge Analytica a fermé.
Oui, oui.
Mais où sont les données? Aujourd'hui, on ne sait rien. Mais en tout cas, visiblement, il y a une action juridictionnelle très importante qui est menée par la Grande-Bretagne concernant Facebook et donc la CNIL irlandaise. Nous, nous attendons en tant que CNIL homologue, entre guillemets, ce que les Irlandais vont décider. Mais non, non, l'ardoise n'est absolument pas effacée. Et au contraire, on est en train de se donner les moyens de savoir ce qui s'est réellement passé.
Et à votre connaissance, est-ce que en France, des données ont été récupérées à des fins politiques pendant la dernière campagne?
Pendant la dernière campagne, ce que l'on sait, nous, c'est qu'il y a 200 000 Français qui étaient, je dirais, dans les 87 millions de Cambridge Analytica Facebook. Donc, pour le moment, c'est la seule chose que nous savons.
Mais ces Français ne savent pas.
On n'a pas enquêté pour l'instant pour savoir si ces données ont été revendues, utilisées par des cabinets d'influence politique ou...
Non, parce que si vous voulez, nous, CNIL, nous n'avons pas enquêté, parce qu'en réalité, tout le dossier est auprès des Irlandais et des Anglais. Donc c'est eux qui vont, pays par pays, regarder ce qui s'est passé.
Et donc les personnes concernées, les 200 000, ne sont pas au courant, ne savent pas qu'ils font partie du lot?
Je ne pense pas qu'ils soient au courant. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une centaine de Français qui ont donné leur accord pour prendre l'application de connaissance des profils. Vous voyez, l'application initiale de recherche. Ceux-ci, ils sont parfaitement au courant puisqu'ils ont cliqué et ils ont accepté de communiquer leurs informations personnelles à cette application en particulier. Mais par les faits, entre guillemets, des conditions générales de Facebook, on est passé d'une centaine de Français à 200 000 par le biais des carnets d'adresses et des contacts. Donc ceux-ci ne sont pas au courant, oui.
D'accord. Et par ailleurs, que pensez-vous de la façon dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, oppose un déni de connaissance, il prétend ne pas savoir? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que c'est une stratégie de défense qui est peut-être une stratégie de court terme, mais certainement pas de moyen terme, parce qu'en réalité, les
vous
instances
doutez
sont
de sa
lancées.
Parole, vous pensez qu'il...
Je doute de sa parole. Écoutez, je n'en sais rien, très honnêtement. Et je crois que c'est pas... En tout cas, nous tenons aux faits. Les faits ne vont pas dans ce sens-là. Je crois que ces sociétés doivent se rendre compte que le monde a changé. Le monde a changé, c'est-à-dire que ce qui est attendu de leurs utilisateurs, c'est de la transparence et de la capacité de maîtrise par ceux-ci. Et je crois qu'il faut absolument que ces dirigeants fassent leur changement culturel, parce que sinon, en réalité, c'est leurs clients qu'ils perdront.
Mais est-ce que, malgré tout, ce n'est pas plus de la transparence, comme vous dites, que de la réelle maîtrise? Parce qu'aujourd'hui, quand on est utilisateur de Facebook, c'est très difficile de se passer de ce réseau social, parce qu'il sert même
bien
à
sûr
la recherche d'emploi, hein, des choses très très concrètes. Donc, de la transparence, oui, mais de la maîtrise.
Mais je crois que personne n'a dans l'idée que nous allons les uns les autres renoncer à ces services. La seule chose que nous demandons à ces services, de dire ce qu'ils font. Or, jusqu'à présent, ils nous opposaient une sorte de rideau extrêmement gris en disant « nous collectons tout ça pour les besoins du service, pour les besoins de l'innovation ». Eh bien non, ils ont besoin, effectivement, d'ouvrir la porte et de dire un certain nombre de choses. Alors, ça n'est pas parfait, bien sûr que non. Mais on voit bien quand même qu'avec ce nouveau cadre, avec les recours collectifs, avec la capacité d'action maintenant très renforcée des régulateurs, moi je crois vraiment que la donne a changé.
Comment vous expliquez l'incapacité des Européens à faire émerger des solutions alternatives? Je sais pas, d'un Facebook européen, où il y a des moteurs de recherche par exemple, quoi, dont tout le monde dit qu'ils sont super, qu'ils marchent très bien, qu'en plus vos données n'y sont pas stockées, comme c'est le cas de Google, et puis en fait, personne ne les utilise.
Mais moi, je crois que jusqu'à présent, nous souffrions d'un manque absolu, c'est-à-dire l'absence de marché unique de la donnée en Europe. Il y avait des lois françaises, européennes, espagnoles, irlandaises, etc. Aujourd'hui, nous avons un marché unifié de la donnée. Donc tout change.
Vous pensez que ça va avoir un effet
industriel ? Je crois que c'est un effet considérable. Celui-ci, couplé avec ce fameux critère du ciblage qui remet les entreprises européennes à égalité de concurrence avec leurs compétiteurs internationaux, je crois vraiment que c'est une opportunité. Alors ensuite, il faut que les entreprises s'en saisissent. Mais je crois qu'on a des talents, on a des capacités mathématiques, marketing, de financement en Europe qui ne sont pas différentes de celles des autres pays dans le monde. Donc, je veux dire, allons-y.
Parce que pour l'instant, on peut considérer que ces sociétés, ces grandes multinationales, sont dans une situation de quasi-monopole.
Bien sûr.
Est-ce que la puissance publique ne doit pas être amenée à démanteler cette situation de monopole ?
Écoutez, il y a des réflexions qui commencent à se mettre en place autour de, finalement, les questions de concurrence et l'application du droit de la concurrence sur tous ces grands acteurs. Vous avez vu que Madame Vestager, le commissaire européen à la concurrence, a pris d'ores et déjà un certain nombre de sanctions sur ces acteurs. Je crois que, bon, il faut laisser à ce règlement le temps de s'installer, de voir si nous sommes capables, entre guillemets, de prendre au bon toutes ces potentialités, de jouer, le cas échéant, des outils de la concurrence, parce que nous avons des outils à notre disposition. Et puis, vous voyez, c'est pas une guerre anti-GAFA. Je veux dire, il faut remettre quand même les choses...
Google, Apple, Facebook...
Non mais, parce qu'après, il y aura une guerre...
Lui-même dit que c'est pire que les ventes d'armes, que cette...
Non mais, les enjeux, on va aussi entrer en guerre contre les Chinois, et puis demain, il y aura... C'est d'abord une capacité pour l'Europe de se mettre dans la bataille. Mmh. Vous voyez, soyons positifs.
Alors, l'an dernier, vous avez condamné la CNIL, Facebook, à 150 000 euros d'amende pour de nombreux manquements à la loi informatique et liberté. Vous le reprochiez à Facebook de ne pas recueillir le consentement express des internautes lorsqu'ils donnaient des informations, etc., dans leur profil. Donc tout ça, c'est réglé normalement avec le RGPD.
Mais la décision que nous avons prise l'année dernière, qui est effectivement extrêmement modeste dans son montant...
C'était le maximum d'amende.
En réalité, on aurait les sanctions que la CNIL pouvait donner, c'est 3 millions d'euros. Mais pour des raisons, légales, on ne pouvait pas prononcer plus. Mais l'objet de la sanction était exactement celui de Cambridge Analytica. C'est-à-dire le fait que des données collectées pour une finalité sont en fait utilisées par des applications tierces pour d'autres finalités. Donc, est-ce que ce type de comportement avec le RGPD est possible ? La réponse est non, justement, puisque le RGPD impose de demander à l'utilisateur, selon les finalités, soit de consentir, soit à tout le moins d'être informé, soit par le biais du contrat, de donner une base à tout ça. Donc, je crois que on va voir si nous sommes capables, et c'est un défi pour les régulateurs européens. Si nous sommes capables de mettre en œuvre les outils nouveaux que nous offre le règlement européen, mais moi je crois, enfin j'ai bon espoir, vous voyez. On connaît ces questions-là. On manquait jusqu'à présent d'un outil juridique pour finalement être entendu.
Donc là, vous pourriez mettre une amende qui est effectivement de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires mondial
Plus d'un milliard.
Plus d'un milliard.
Mais qu'est-ce qui contraint finalement l'entreprise en question à obéir à la sanction, en fait?
La menace pécuniaire.
Quel est le moyen de contrainte dont vous disposez?
Je dirais qu'il y a des contraintes médiatiques et puis il y a des contraintes juridiques. Les contraintes médiatiques, c'est la perte d'image absolue si Facebook ou les autres étaient condamnés au titre du RGPD sur une affaire de cette nature. Vous imaginez quand même le séisme médiatique que ça représente pour ces entreprises. En 2014, Nous avons été l'autorité française la première à sanctionner Google. À l'époque, c'était aussi 150 000 euros. Mais surtout, nous les avons obligés à mettre sur leur homepage pendant 48 heures l'existence de la sanction.
Oui, pendant 48 heures.
48 heures. Je peux vous dire que c'est ça qui leur a fait le plus de mal.
Vous dites ça, mais en même temps, Cambridge Analytica, le nombre d'utilisateurs de Facebook a progressé de 13% ces dernières semaines, malgré ce scandale.
Alors, la question est de savoir dans quel pays ça a progressé. Je doute que ça ait beaucoup progressé en Europe quand même. Oui. Et moi, je reviens des États-Unis et du Canada. Je peux vous dire que Cambridge Analytica a été un séisme politique dans ces pays-là, parce que justement, là, pour la première fois, ces questions de protection des données sont sorties un peu du giron des spécialistes pour entrer dans le débat politique et dans le cœur, entre guillemets, de la société américaine, les élections.
Et vu la surface internationale...
Oui. Allons voir le résultat de tout ça.
Oui, parce que vu la surface internationale de ces entreprises, si elles perdent sur un marché qui devient un peu plus averti, elles vont facilement compenser avec dans des parties du monde où les gens sont moins avertis. Il y aura toujours un moyen de...
Vous avez théoriquement raison. En pratique, ça n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en réalité, ce RGPD devient de fait... une forme de standard mondial, c'est-à-dire que tous les pays du monde sont en train de regarder ce qui se passe en Europe, de voir comment ça va marcher, et vous avez le droit à l'oubli qui est étudié actuellement au Japon, le droit à la portabilité qui est étudié actuellement aux Philippines. Donc nous faisons école sur ces questions-là, et dans beaucoup de pays, la société civile s'éveille, demande des garanties qui sont équivalentes. Et donc, si l'Europe est capable de dire, non seulement nous avons un bon texte, un beau texte, mais ce texte marche, il apporte les bénéfices escomptés, alors là, je crois qu'on va devenir très convaincant.
Sur le droit à l'oubli, c'est quelque chose, parmi les nombreuses plaintes dont vous avez été saisies, qui ont beaucoup progressé d'ailleurs l'année dernière, hein, plus de 8000, oui. Progression de plus de 9%. Le droit à l'oubli en faisait partie. Comment vous allez faire respecter ce droit à l'oubli? Parce que il va concerner l'Europe, mais le droit à l'oubli, comme Internet, son terrain de jeu est planétaire, il ne s'appliquera pas ailleurs?
Écoutez, le droit à l'oubli, vous savez, c'est un droit qui est ancien. Hein. En réalité...
C'est-à-dire le RGPD, toutes les données,
c'est quelque chose qui n'est pas. Alors, ça n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut effacer à certaines conditions. Vous voyez, il y a un équilibre en fait à trouver entre le droit des personnes et puis le droit des entreprises, de ceux qui traitent les données. Et il a été complété par ce fameux droit au déréférencement, vous savez, qui a donné lieu à beaucoup de controverses avec le moteur de recherche Google, notamment. Je dirais que il est intéressant, ce droit à l'oubli, parce que en fait, il montre justement ce que les gens veulent. Être capable de ciseler leur identité numérique à leur façon. Et de pouvoir, dans certains cas, dire, écoutez, moi, je souhaite avoir une capacité d'évoluer. Et ce que j'ai dit, alors que je ne suis pas une personnalité publique, que je n'étais pas dans quelque chose qui est d'intérêt collectif, eh bien, ce que j'ai dit il y a 15 ans, je souhaite pouvoir le supprimer. Et ça, je crois que c'est une liberté que chacun d'entre nous peut avoir. Et je trouve que sociétalement, c'est intéressant de voir l'essor finalement de ce droit. D'ailleurs, avec Google,
à faire appliquer, hein, on l'a vu pour
oui
les utilisateurs.
Non, parce qu'en réalité, sur le fond, avec cette société Google qui opère beaucoup de déréférencement demandé, sur le fond, on a très rarement de débat de fond. On est assez largement d'accord compte tenu des critères qu'a développé le G29, donc les CNIL européennes sur cette question. Le seul débat que nous avons, c'est la portée territoriale. C'est la portée territoriale, et ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, est-ce que vous demandez à être effacé d'un fichier, d'un moteur de recherche, ou bien est-ce que vous demandez simplement à ne plus être visible, par exemple, de l'Europe? Et évidemment, la position de Google, c'est de dire, non, on n'efface pas vraiment, vous n'êtes simplement plus visible d'Europe. Ce qui fait que si quelqu'un, un proche, une relation professionnelle, consulte le moteur à partir d'un autre territoire, en réalité, ce que vous souhaitez voir effacé est toujours présent. Et donc, nous avons dit, écoutez, ça n'est pas possible. Vous offrez un service mondial, ce service, et d'ailleurs, vous en faites un argument juridique dans d'autres circonstances, si vous acceptez le déréférencement, nécessairement le déréférencement, il est sur l'ensemble de votre service et donc il est nécessairement mondial. Ça, c'est une affaire qui doit être tranchée par le juge européen. Et je crois que ce sera très intéressant en termes de droits et libertés de savoir finalement la part, la position que prend le juge.
Il nous reste quelques minutes hein, pour peut-être aborder un autre enjeu auquel vous êtes confronté, c'est celui de l'intelligence artificielle. On voit bien aujourd'hui que cette intelligence artificielle se nourrit essentiellement, elle est très 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 avide des données. Il y a un exemple là, très récent, il y a 48 heures, une famille aux États-Unis a vu sa conversation enregistrée parce qu'elle avait du Google Home qui était branché chez elle. Cette conversation a été envoyée chez des amis qui ont alerté ce couple en disant on a votre conversation en live. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ? Parce qu'on voit bien que là, les enjeux sont énormes. Et puis, en même temps, c'est l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très précieux dans le domaine de la santé, dans plein de domaines comme cela.
Alors, moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un peu la quintessence du numérique. C'est-à-dire que c'est à la fois la quintessence de la puissance de feu de ces outils. Et effectivement, c'est fabuleux dans plein de domaines. Mais c'est la quintessence aussi, potentiellement, de l'obscurité et de la boîte noire. Donc, nous avons travaillé... Et de la surveillance, alors peut-être dans certains cas. Hein, nous avons beaucoup travaillé en 2017 sur cette question. Nous avons notamment organisé un débat public dans tous les champs qui étaient concernés par l'utilisation de ces nouvelles techniques.
Vous avez même rendu un rapport,
d'intelligence artificielle. On a rendu un rapport à la fin de l'année. Et ce que l'on voulait, le message principal en tout cas que nous voulions passer, c'est de dire... Nous sommes tout à fait capables, nous, Européens, de nous battre à égalité de concurrence avec les Chinois, les Américains, enfin tous ceux qui sont très présents dans le débat actuellement sur l'AI, enfin l'intelligence artificielle, à condition que nous valorisions ce que nous savons spécialement bien faire, c'est-à-dire cet ancrage éthico-juridique. Parce que, dans le fond, l'intelligence artificielle, même en Chine, on dit les Chinois n'ont pas de la vie privée, c'est pas important pour eux. C'est faux. Il y a toute une série de sondages qui commencent à sortir, d'études qui commencent à dire 4 Chinois sur 5 ont peur de l'intelligence artificielle à cause justement des questions de protection des données.
Mais on a quand même le sentiment, Isabelle Falque-Perrotin, que par rapport à la bioéthique, où on s'est mis des limites, il y a des choses qu'on ne teste pas. En intelligence artificielle, du moment que c'est informatique, etc., il y a peu de choses qu'on s'interdit. Et notamment, je pense à la question de la voiture connectée, vous en parliez. La voiture connectée, c'est super, mais c'est quand même le jour où vous pouvez accéder à la boîte noire, enfin au système central de la voiture connectée, vous faites le plus grand attentat de l'histoire de l'humanité.
Bien sûr.
Si vous décidez de couper tous les freins en même temps, par exemple.
Alors ça, c'est le problème des objets connectés, ce qui est encore un autre sujet. Mais sur l'intelligence artificielle, moi je crois qu'il y a une prise de conscience. Actuellement, c'est une prise de conscience au niveau européen de la nécessité d'avoir, je dirais, une démarche concertée, cohérente et construite sur ces questions. Je crois qu'on a un certain nombre de principes qu'on peut pousser au niveau mondial, qui sont ceux de transparence, de loyauté, de vigilance sur ces questions d'intelligence artificielle. Et je crois en tout cas qu'on est bien placé pour participer à cette conférence mondiale. Les autorités de protection des données ont choisi ce thème de l'intelligence artificielle dans leur réunion du mois d'octobre. On l'a mis à l'agenda. Et je crois que l'Europe va pouvoir pousser un petit peu sa propre position sur le sujet.
Alors le président de la République a même parlé d'un GIEC hein, sur
l'éthique.
Voilà. Nous arrivons, Isabelle Falque-Perrotin, à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation aux questions de Sophie Malibaud, de RFI, de Christophe Ayad, du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.